Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. La liberté d'expression, la compassion, mais aussi la beauté qui nous entoure, et que nous ne savons parfois plus très bien voir ni célébrer, il faut bien l'avouer. Voici le programme que je vous propose ce soir avec trois livres clairs, inspirants, passionnants, qui invitent à réfléchir loin des sentiers battus. J'accueille deux philosophes et un historien, Monique Cantos-Perber, Paul Audy et David Van Reybrouck. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir et de vous rassembler surtout ce soir, car je crois que vos livres ont beaucoup à se dire et surtout à raconter à nos téléspectateurs. Monique Cantos-Perber, vous êtes philosophe, spécialiste de ce qu'on appelle la philosophie morale. Vous avez également dirigé NormalSup, l'école normale supérieure, c'était entre 2005 et 2012. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Albin Michel un essai qui devrait faire beaucoup de bruit car il pointe le paradoxe de notre époque. Nous vivons des temps où la liberté d'expression est totale, partout, puisque chacun peut dire tout ce qu'il veut, sur les réseaux sociaux notamment. Et en même temps, comme dirait l'autre, jamais la haine n'a autant envahi le monde numérique. Jamais autant de censeurs et d'extrémistes ne se sont mis à privatiser les règles de la parole, à refuser le débat. Sauver la liberté d'expression, c'est le titre de ce livre absolument passionnant. En vous lisant, Monique Cantos-Perber, je dois vous dire que j'ai eu envie d'inviter Paul Audy. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe également, mais alors, philosophe d'un autre genre. Vous, vous ne dirigez pas d'institution, vous n'êtes même pas enseignant.
Non, je l'ai été, mais je ne le suis plus.
Aujourd'hui, vous écrivez des livres qui sont formidables, parce que très clairs, et qui vont aussi de temps en temps du côté de la philosophie morale, qui vont très souvent du côté de la littérature. Vous avez écrit sur Romain Gary, sur Albert Camus, et vous publiez en poche, chez Pocket, « L'Empire de la compassion ». Que signifie vraiment compatir? Quel rapport à la souffrance, à la douleur, la compassion vous impose-t-elle? À quelle contradiction cette morale de la compassion qui est si répandue aujourd'hui vous expose-t-elle? Eh bien, autant de questions qui prennent un sens un peu particulier, il faut bien le dire, par ces temps de pandémie et de confinement. Et puis, David Van Reybrouck est avec nous. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir, j'allais dire enfin, parce que je vous lis depuis longtemps. Vous êtes belge.
C'est ça, flamand.
Oui, originaire de Bruges.
C'est ça.
Mais vous vivez à Bruxelles.
Tout à fait.
Vous avez étudié, David Van Reybrouck, l'archéologie, la philosophie. On vous doit un livre magistral qui est au confluent de toutes les disciplines. Il s'appelle « Congo, une histoire », livre qui racontait, comme seul un écrivain sait le faire, l'histoire du Congo, mais aussi de la colonisation. C'était 900 pages sur 90 000 ans d'histoire. Voilà. Votre nouveau livre, pour lequel je vous ai invité, s'intitule « Ode » et il s'agit de très courtes pièces absolument délicieuses qui célèbrent les bonnes choses. L'art, la lecture, mais aussi l'amitié, la beauté du monde, et j'en passe. J'aimerais que vous nous disiez, tous les trois, peut-être pour commencer, en quoi la philosophie peut nous aider à traverser la période que nous vivons actuellement, où nos repères sont particulièrement brouillés. David Van Reybrouck.
C'est pas évident. Ce temps est difficile pour tout le monde. Le confinement dure et perdure. Chez nous, en Belgique, les variantes vont beaucoup plus vite que les vaccins. Et donc, il y a une espèce de compétition entre virus d'une part, vaccins d'autre part. La philosophie, bien sûr, peut injecter une dose de bonheur, de joie, surtout de réflexion. C'est curieux que vous me posiez la question en première instance, parce que je suis le moindre philosophe de tout le triumvirat de ce soir.
Mais c'est précisément pour cette raison que je vous pose la question, parce que vous êtes peut-être celui qui s'approche le plus de ceux qui nous regardent ce soir, c'est-à-dire curieux de tout, spécialiste de rien et prêt à écouter tout le monde. Alors évidemment, on est très content d'avoir des philosophes qui, vous allez le voir, n'ont pas d'œillères. Mais
et ben, franchement,
pour vous, vous avez le sentiment que, parce que vous êtes poète également, romancier, aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'un petit peu de réflexion que vous associez, je le note, au bonheur et à la joie, nous aide davantage qu'en temps normal?
Je trouve les dernières semaines ont été difficiles, mais la dernière semaine l'a été un peu moins, parce que j'ai eu la chance de lire les deux ouvrages de ces deux merveilleux auteurs la semaine passée, en PDF malheureusement, parce que le livre venait de sortir. Mais j'ai passé des moments passionnants en lisant. Et je me suis dit, mais franchement, moi, dans mon travail, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'interviews. Moi, je fais beaucoup d'histoires orales. La philosophie n'est pas toujours le genre que j'aborde en première instance. Et cette semaine, je me suis dit, mais je vais le faire plus souvent parce que ça me fait un bien fou.
Monique Cantos-Perber, alors la philosophie, vous travaillez la philosophie, les philosophes grecs notamment, vous avez beaucoup écrit sur l'Antiquité, mais aussi la philosophie morale. En quoi nous aide-t-elle? D'ailleurs, ce terme aider, est-il le bon?
Elle nous ouvre les yeux et elle nous apprend à être honnête envers nous-mêmes et envers la réalité. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? C'est extraordinaire ce que nous vivons, complètement imprévisible. C'est la première chose que la philosophie me paraît nous aider à penser. Comment un phénomène de portée mondiale peut s'abattre sur le monde entier en quelques jours? 2/3 de l'humanité ont été, pour ainsi dire, arrêtés sur image, immobilisés. Et quand on a cette sorte de fixation de l'histoire, eh bien, la philosophie apprend à, comme disait Peggy, à voir ce qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu l'extraordinaire précarité de l'humanité. On a vu les fortes inégalités de pays comme les nôtres, qui pourtant sont des pays développés et qui ne s'attendaient pas à faire un tel constat, inégalité en termes de conditions d'existence, de possibilités de rebondir. Et puis, on a vu aussi, dans certains cas, une mobilisation extraordinaire, toute une inventivité fabuleuse pour essayer de pallier la situation, les inconvénients de la situation où nous trouvions. Regardez ce qui s'est passé avec les vaccins, cette innovation inouïe. Jamais on n'aurait cru qu'un vaccin aurait été possible en si peu de temps. Donc, d'une certaine manière, la philosophie nous incite à tirer les leçons du fait que ce que nous pensions impossible s'est révélé possible. Or, c'est réel, puisque ça a été possible, si je peux renverser le lien habituel.
Tirer des leçons et le faire, effectivement, avec une certaine joie, puisqu'on s'aperçoit que ce qui était réputé impossible, en fait, on peut toujours y arriver.
Mais de notre côté, elle nous a aussi montré que nous avons besoin d'inventivité, nous avons besoin d'ouverture, nous avons besoin de contacts sociaux, nous avons besoin des autres. Le problème avec ce confinement, chacun chez soi, c'est qu'on ne rencontre plus. Il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de surprises, il n'y a plus d'inattendus, d'imprévus. Et d'une certaine manière, les autres ouvrages que j'avais choisis insistent énormément sur la valeur, la richesse, le bonheur de cet imprévu.
Paul Audy, quand il n'y a plus d'imprévus, à quoi sert la philo?
Il y aura toujours de l'imprévu, parce que l'événement sera toujours là. Nous l'attendons, il est même inespéré. Et alors, quand il arrive, il est du devoir de la philosophie de se mettre en face de l'événement et d'essayer de le penser. Rien n'est intelligible d'emblée. Et je dirais même que le travail de la philosophie est d'abord de rendre ce qu'on croit intelligible, inintelligible dans un premier temps. Et ensuite, justement, de déployer la question, les problèmes, de telle façon à ce qu'on puisse jeter un regard neuf sur eux. Et jamais nous n'aurions imaginé être dans cette période charnière, très compliquée. Dès le début de la pandémie, il y a eu comme une sorte de phrase que tout le monde a prononcée, le monde d'avant, le monde d'après. On était en quelque sorte dans cette limite, sur cette ligne de crête. Qu'est-ce qu'on quitte et vers quoi on va ? Eh bien, de ce point de vue-là, je crois que la philosophie a un rôle à jouer, non pas pour être prophétique, mais en quelque sorte pour nous permettre d'accepter l'événement et de le réfléchir et de le transformer surtout.
On va essayer de comprendre justement les événements actuels, ce que nous pouvons penser, la façon dont nous pouvons peut-être les comprendre, faute de les changer ou les transformer. Sauver la liberté d'expression, rien que ça, Monique Cantos-Perber. C'est le titre de l'essai vigoureux que vous publiez aux éditions Albin Michel. Il sort aujourd'hui en librairie et qui fait le constat d'un paradoxe. On la croit omniprésente, la liberté d'expression, puisque dans nos démocraties, chacun est libre de dire ce qu'il pense, notamment sur les réseaux sociaux. En réalité, écrivez-vous, elle n'a jamais été aussi fragile, menacée par les censeurs, par les extrémistes en tout genre. La liberté d'expression est à sauver, peut-être même à réinventer. Ce qui est passionnant, dans ce livre, c'est que vous retracez l'histoire de la liberté d'expression, vous montrez que ça ne va pas de soi, vous proposez plusieurs pistes pour préserver et renouveler cet idéal. Expliquez-nous ce que nous vivons, quel étrange retournement tout de même. Comment ce qui était à l'origine un idéal de liberté est aujourd'hui revendiqué, Monique Cantos-Perber, pour justifier un usage plus qu'agressif de la parole, puisque ce sont des groupes ou des individus qui très souvent multiplient les appels à la censure pour réduire au silence souvent les opinions qui ne leur plaisent pas. Comment s'est fait ce retournement ?
Vous avez parfaitement rappelé la situation actuelle, c'est-à-dire une liberté d'expression qui est pour ainsi dire prise en otage entre des propos dits libérés, ce phénomène de la parole libérée, la parole sans tabou, qui prospère à la limite de l'antisémitisme et du racisme et qui se réclame du noble idéal de la liberté d'expression pour excuser cette transgression extrême. Et d'un autre côté, des nouvelles pratiques de censure émanant de groupes activistes, militants qui prétendent légiférer en quelque sorte sur ce qu'on a le droit de dire et sur ce qu'il faut taire.
Ça, ce sont les points noirs de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a tout de même, au nom de la liberté d'expression, un idéal, un progrès démocratique qui nous permet de tout dire, de faire entendre toute parole?
C'est ça l'idéal de la liberté d'expression, en quelque sorte, faire en sorte que la conversation continue, c'est-à-dire qu'elle soit constamment alimentée par des pensées nouvelles, des opinions nouvelles, et qu'on ait toujours quelque chose d'intéressant à dire face à une objection. La liberté d'expression, c'est la garantie qu'on rencontrera son diable. Qu'un jour ou
l'autre. Qu'est-ce que c'est rencontrer son diable ?
Ça veut dire tout simplement être en face d'une personne qui dira « je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi ». Et ce qui, évidemment, incite toute personne qui croit en sa conviction à trouver les arguments pour approfondir son point de vue. Donc la liberté d'expression, c'est ce qui vous oblige à ne jamais vous endormir sur vos certitudes.
Si je vous suis bien,
pardonnez-moi. Toujours en état d'alerte.
Ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il ne s'agit pas de pouvoir dire tout ce que je veux, mais d'être capable d'entendre tout ce qui se dit aussi.
Entendre tout ce qui se dit, oui. Aussi. Et faire en sorte que ça parle autour de soi.
C'est une invitation au débat, la liberté d'expression,
absolument.
Ou une invitation à la revendication de ce que je pose comme étant mon identité?
Non, la revendication de la liberté d'expression n'est pas une revendication de solitaire ou de soliloque, c'est une revendication de conversation, de communication, d'échange, parce que c'est seulement dans les dimensions d'échange qu'il y a cet enrichissement collectif, c'est ce progrès collectif, en quelque sorte, vers plus de vérité, vers plus d'intelligence.
Mais alors, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, Monique Cantos-Perber, je peux quand même demander à ce que l'autre ne heurte pas ma sensibilité, ne m'offense pas? Ça aussi, c'est un des grands mots du siècle, vous le pointez, offenser, se sentir offensé, peut-être par la liberté d'expression de David Van Reybrouck ou de Paul Audy.
Alors là, vous touchez le point douloureux, si je puis dire. C'est qu'en effet, parler, c'est très bien, parler, ce qui permet d'enrichir notre intelligence, d'enrichir nos échanges. Mais d'un autre côté, la parole fait mal. Et parfois, elle vise à tuer, à humilier, à disqualifier, à délégitimer. Et plus simplement, à réduire l'autre au silence, à l'exclure de la société. Au fond, les injures raciales qui sont si fortement sanctionnées par la loi aujourd'hui ont bien cet effet. Quand on ramène quelqu'un à son identité, qui est souvent l'identité d'une minorité et qui fut opprimée, d'une certaine manière, on le prive de tout accès à la communauté humaine. On essaie de l'écarter, de le disqualifier. Donc la parole fait mal. Et la question est toujours de savoir quelle est la... le critère légitime, incontestable, justifié, qui permettra d'apprécier ce mal.
Alors quel est-il ?
Parce qu'il est certain
qu'il
y a des propos qui nous choquent. Moi, je suis convaincue d'un certain nombre de choses. Si j'entends quelqu'un dire le contraire, je suis choquée, déstabilisée, j'ai envie de répliquer. Mais ce n'est pas la même chose que si j'étais directement accusée dans ce que je suis de plus profond. Là, ce ne serait pas simplement un état d'inconfort intellectuel, de déstabilisation, de gêne, de volonté d'en découdre, mais ce serait le sentiment bien, d'être en quelque sorte plus du tout reconnu, d'être complètement exclu d'une forme de communauté d'échange. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre? Qu'est-ce qui distingue ce qu'on appelle de manière conventionnelle, en philosophie mais pas seulement, les dommages, c'est-à-dire les torts objectifs faits à autrui qui peuvent aller jusqu'à la menace de mort ou la mise en cause radicale, et puis l'offense, c'est-à-dire ce qui est choquant, déstabilisant, transgressif, que vous n'avez vraiment pas envie d'entendre, mais dont vous devez quand même accepter qu'il y a des gens qui le pensent.
Donc ça veut dire, si on vous suit bien, Paul Audy, oui à l'offense, non à l'injure.
Oui, oui. Voilà, nécessité de tolérer l'offense, même si elle est affreusement désagréable, et non à l'obligation que certains voudraient restituer d'accepter les dommages.
Vous pointez dans ce livre l'arrivée de la censure. Vous retracez d'ailleurs, j'allais dire, c'est presque de l'histoire contemporaine, de l'histoire immédiate que vous faites, la manière dont la censure commence à sévir à la fin des années 1990, sur les campus américains, puis dans les années 2000, et puis... Comme souvent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, ce qui s'y passe arrive très souvent en Europe, assez rapidement du reste. Et c'est ce qui s'est produit. Vous retracez un certain nombre d'étapes. Prenons la forme la plus connue, celle de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture aux États-Unis. C'est en français la culture de la désinvitation. On pourrait la traduire comme ça, David Van Reybrouck ?
La culture de l'annulation même.
De l'annulation. C'est-à-dire que je vous invite et puis finalement, non, je ne vais plus vous inviter. Je vais même vous désinviter et mieux, je vais lancer une manif contre vous.
Oui, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez l'intention de dire. Moi, j'ai eu des propos à mon égard quand j'avais écrit un livre sur l'histoire du Congo qui a été bien reçu en général. Il y a aussi eu des gens qui disaient, mais vous, en tant que blanc, homme, belge en plus, vous n'avez pas le droit d'écrire ce livre-là. Alors que même dans ce livre, je donne la parole à des centaines et des centaines de témoins congolais et congolaises, il y avait des gens qui trouvaient qu'il fallait appartenir au groupe concerné pour avoir le droit d'écrire ce livre-là. Et donc là, je pense, je comprends la sensibilité, je comprends la difficulté, mais j'ai du mal avec une censure imposée qui préclut la possibilité que quelqu'un s'investit à tel point de vouloir comprendre le vécu de quelqu'un d'autre. À mon avis, et je trouve que le livre de Monique, pour moi, est vraiment, vraiment important. C'est un livre qui me donne des outils dans des discussions qui sont d'une violence importante maintenant. On voit le racisme sur les médias sociaux, d'une part. On voit la volonté de supprimer ces propos tout à fait inacceptables. Mais donc... on va d'une extrême à l'autre et on opprime, on interdit l'expression de tout ce qui nous semble désagréable.
Alors justement,
et Monique, excuse-moi, mais il y avait une phrase que j'ai vraiment adorée dans votre livre, c'est quand vous parlez de la tyrannie du bien. Je trouve ça extraordinaire. Ça aurait pu être le titre de votre ouvrage aussi, je trouve. Mais c'est extraordinaire. En voulant faire du bien, on risque toujours d'imposer une tyrannie de la bien-pensance, une tyrannie du bien.
Monique Cantos-Perber, on va revenir justement sur cette tyrannie du bien qui est peut-être aussi au cœur de cette culture de l'annulation, de la désinvitation, cette fameuse cancel culture. Alors elle s'est manifestée, vous citez des exemples que tous les téléspectateurs peut-être ont pu entendre il y a encore très très peu de temps. Alain Finkielkraut, par exemple, en 2019, il y a tout juste 2 ans, a été empêché de faire une conférence, pas n'importe où, à Sciences Po, c'est-à-dire dans une école a priori ouverte, qui a pour but de former, y compris au débat. Sylvia Nagasinski, la philosophe, quelques mois après, il y a 1 an et demi, empêchée de venir donner une conférence sous la pression d'un lobby LGBT+, tout simplement parce qu'on n'acceptait pas qu'elle ait des positions différentes de celles de ce lobby sur la PMA, la PGA. Ce sont quelques exemples parmi d'autres. De quoi cette nouvelle culture est-elle le nom ?
Eh bien, vous l'avez dit, la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation, alors des invitations. On dit aussi parfois aux États-Unis le no-platforming. C'est-à-dire qu'on veut refuser de donner une plateforme à certains propos. La plateforme en question, c'est bien sûr la légitimité universitaire. Parce que quand un orateur s'exprime dans une université, il y gagne une légitimité. Et c'est pourquoi tant de gens souhaitent évidemment s'exprimer dans des universités. Priver des propos de la légitimité universitaire est une mesure de rétorsion qui est très utilisée par certains activistes aujourd'hui. Mais alors,
pardonnez-moi, l'université, ce n'est pas le lieu justement où, a priori, on doit débattre, savoir, apprendre et non pas militer.
C'est le lieu où l'échange doit être le plus libre possible. La règle d'or de l'université, vous pouvez tout dire à condition que vous ayez un argument et que vous acceptiez les objections.
Pardon d'être très précis, mais donc, même si je ne suis pas d'accord avec Alain Finkielkraut ou avec Sylvia Nagasinski, je les écoute quand même.
Je le laisse parler, au contraire, avec avidité, avec impatience, pour pouvoir réfuter. C'est ça, la règle d'or de l'université. Et dans tous les exemples que vous avez donnés, ce qui est caractéristique, c'est que les propos tenus, en particulier la question de la GPA, et autant que je sache, l'état actuel de la loi. La loi française, aujourd'hui, interdit la GPA. Donc, les propos que Sylviane Agacinski souhaitait tenir n'étaient pas des propos qui pouvaient être incriminés légalement. Par ailleurs, dans ces volontés d'interdiction, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucun examen précis du tort que cela peut faire. Et surtout, qu'on insiste sur le fait, ça ne correspond à aucune incrimination légale, bien sûr, et on insiste sur le fait que non seulement on ne veut pas entendre de telles thèses exposées, là, je ne préjuge pas du bien fondé de la thèse ou pas, hein. Mais on ne veut pas entendre une telle thèse exposée. Et d'autre part, on ne veut même pas la réfuter et répliquer. Or, tout membre de l'université, en quelque sorte, est tenu par le contrat implicite qui entre ici, doit accepter la contradiction et doit proposer des arguments s'il n'est pas d'accord.
Est-ce que c'est propre à l'université ou est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on souhaiterait pour toute démocratie, toute république,
on le voudrait.
Tout espace finalement, apprendre à penser contre, non ? Est-ce qu'on n'apprend pas à penser contre aussi à un moment dans la vie ?
Ben, il faudrait quand même toujours essayer de penser contre soi-même d'abord pour essayer de se mettre en question. Mais ce que le livre de Monique Anthos-Perber soulève comme problème, c'est le problème de la démocratie. Vous avez tout à fait raison d'employer ce mot-là. Au fond, c'est un plaidoyer pour la démocratie, pour une certaine idée de la démocratie qui semble avoir reflué. En tout cas, la question que l'on se pose après avoir lu ce livre, c'est « Mais de quelle démocratie voulons-nous ? » Qu'est-ce que c'est pour nous être démocrate ?
Alors, est-ce qu'on peut préciser et poser la question que pose Monique Anthos-Perber ? Quelle démocratie voulons-nous tout en laissant aussi les minorités avoir le maximum d'audience, le plus grand droit à une parole libre ? Parce qu'il y a ça aussi. Vous pointez beaucoup le fait que c'est les minorités qui se constituent en communauté et qui souvent demandent, parce qu'elles se sentent offensées, parce que leur sensibilité est offensée, qui demandent l'interdiction, qui deviennent les nouveaux censeurs.
Oui, voilà. Voyez-vous, c'est pourquoi l'exemple de l'université, en particulier l'université américaine, m'a beaucoup intéressée, parce que l'université américaine a comporté, pour certaines communautés, dans certains lieux, des quotas jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc on n'était pas du tout dans le modèle républicain, pas de discrimination, complètement intégrateur de l'université française. Lorsque les étudiants issus des minorités ont été admis dans toutes les universités à la fin du mouvement pour les droits civiques, à la fin des années 60, évidemment, ces étudiants ont joué le jeu. Ils ont essayé d'adhérer à la règle commune, qui est une règle d'invisibilisation totale. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre les milieux sociaux, entre les appartenances culturelles ou identitaires. Mais beaucoup d'entre eux ont eu aussi le sentiment, à partir des années 90, quand la réflexion sur les identités a commencé, et avec la force des courants multiculturalistes, beaucoup d'entre eux ont eu le sentiment que la rançon de cette inclusion, c'était le fait qu'ils perdaient en fait l'essentiel de leur identité à faire comme s'ils étaient comme les autres. D'où la revendication de la reconnaissance. Alors évidemment, on ne peut pas trouver que c'était totalement illégitime. Il est vrai que cette communauté étudiante idéale cachait beaucoup de rapports de force et beaucoup d'inégalités. Il ne faut pas se voiler la face sur cette question-là.
Y compris sur la question raciale aux États-Unis.
Pouvait continuer à persister à titre de préjugé. Mais évidemment, de là à mettre en cause l'idée d'un langage commun, l'idée qu'on peut s'intéresser à des expériences existentielles et à des communautés complètement différentes de la sienne, qu'on peut partager des expériences de vie qui sont communes à toute l'humanité et qu'il faut au contraire que chacun se replie sur son identité, il y a un pas.
Mais les deux peuvent-ils coexister, Monique Anthos-Perber ? Peut-on faire coexister à la fois ce bien commun, ce langage commun, ce « nous » être ensemble, et puis de l'autre, le fait que oui, je me sens proche d'une minorité qui peut parfois être une minorité de couleur de peau, ethnique, de sensibilité sexuelle.
Il faut tout faire pour que ça puisse coexister, parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble possible sans cela. Et c'est un combat de tous les instants. Il n'y a pas de formule magique à adopter de manière systématique. Il faut à chaque fois faire en sorte que le langage commun persiste, qu'on puisse échanger les expériences. Toute personne est légitime à s'intéresser à un autre mode de vie que le sien et à pouvoir écrire dessus, sinon il n'y aurait pas de littérature. La littérature, c'est ça.
Alors,
faire l'expérience d'une autre existence que la sienne.
Parlons de littérature, précisément, car vous pointez cette volonté de censure au nom de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait avec, ce livre, ce grand classique? Personne ne veut dire le titre, hein. Agatha Christie a écrit un livre qui, pendant des années, par des générations, a été lu sous le titre « Dix petits nègres ». Ça ne vous a pas échappé aujourd'hui, c'est « Ils étaient dix ».
Mais bien sûr.
Peut-on encore dire qu'on a aimé « Dix petits nègres » ou faut dire qu'on a aimé « Ils étaient dix » ?
Ben, quand on cite le livre sous le titre que lui a donné Agatha Christie, on ne peut pas manquer de citer « Dix petits nègres ». En tout cas, on le cite en anglais. On est dans un processus d'euphémisation généralisée, comme si nous avions peur de voir la réalité. Mais ce n'est plus notre réalité, c'est la réalité passée. Quel est le problème à la voir pour ce qu'elle a été ? Faut-il censurer Proudhon ? Faut-il censurer Voltaire, dont les passages antisémites sont absolument incontestables ? Ça ne les empêche pas d'être de très grands écrivains.
Alors donc, on va continuer justement avec les écrivains.
Demandez
au passé
grand justice. Je suis
très très intéressé de savoir ce que vous pensez de ce qui vient de se passer aux États-Unis à partir de ce livre que vous connaissez peut-être, vous qui nous regardez ce soir, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee, publié en 1960, et qui aux États-Unis est un peu l'équivalent du Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'on le lit très jeune à l'école, on le relit au collège, on le relit au lycée, on l'enseigne même dans le supérieur. Il contient un mot, ce qu'on appelle le N-word, le mot N, nigger. Nigger, ça n'est pas noir, c'est nègre. Mot prohibé depuis peu aux États-Unis. Est-ce que ce livre, dont beaucoup d'universités demandent le retrait des bibliothèques, doit être retiré des bibliothèques ? Est-ce qu'on peut
mais
encore
vous
le
l'avez
lire ?
Prononcé là, parce que vous êtes à la télévision française. En revanche, vous auriez été à la télévision américaine, vous n'auriez même pas pu le prononcer.
Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, bien sûr, vous avez raison. J'aurais dit le N-word,
voilà.
Le mot N.
Voilà.
Eh bien, bien sûr, c'est absurde.
Écrit en 1960. Hein.
Et ce livre a eu un rôle fondamental pour la prise de conscience des inégalités raciales aux États-Unis et du système de la persistance de la discrimination. Nier son existence n'a jamais, ne contribuera absolument pas à quelques progrès de la situation actuelle.
On rappelle que c'est l'histoire d'un avocat blanc qui défend une famille noire.
Une famille noire. Nier ce que le passé a été. C'est se rendre complètement idiot.
Mais là, c'est la négation d'un mot. Est-ce que vous comprenez que ce mot « nègre » suscite une telle levée de bouclier ?
Alors, je distingue deux problèmes. L'utilisation du mot « nigger », et je le répète, dans le livre de Harper Lee, qui est un fait, elle l'a écrit comme ça, et c'est la moindre des choses que respecter ce qu'elle a écrit, en tenant compte du contexte de l'époque. Et puis, il y a par ailleurs l'usage actuel de ce mot. Alors, il est vrai que ce mot, aujourd'hui, concentre, en tout cas dans la culture américaine, l'essentiel du mal que portent les mots, c'est-à-dire l'injure raciale assortie de tous les phénomènes adjacents de discrimination et de provocation à la haine. Et ce mot est devenu un mot tabou. Cet élément complètement archaïque du tabou, de la profanation en quelque sorte religieuse qui revient dans la langue à l'époque de la modernité et même de la post-modernité est une aberration. C'est le genre de choses auxquelles il ne faut absolument pas consentir.
Mais que répondez-vous à ceux, pardonnez-moi, mais tout à l'heure vous l'avez dit, la langue peut faire mal. Que répondez-vous à celles et à ceux qui disent mais ce mot nous fait mal ?
Tout dépend de la manière dont il est utilisé. S'il est utilisé dans un contexte pour désigner un individu et lui dire tu es un nigger, et tu n'as pas le droit à la parole, tu t'écartes. Là, il s'agit de provocation à la haine, et il s'agit d'un usage complètement délictueux de la parole.
Et c'est encadré par la loi.
Maintenant, quand il s'agit d'une citation, quand il s'agit de rappeler un texte qui a été écrit avec ce mot il y a plus d'une cinquantaine d'années, quand il s'agit d'écrire une pièce de théâtre, par exemple, quand il s'agit même à la limite de faire une blague avec toutes les distanciations possibles, le contexte est complètement différent. La parole qui fait mal, c'est la parole qui est adressée à quelqu'un. Ce n'est pas le propos général. Comme le dit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Si on n'en reste pas à cela, à cette certitude absolue, celui que chacun est propriétaire de ses convictions et de sa conscience, à condition qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il ne profère pas dans des situations qui visent à faire du mal à autrui, si on n'en reste pas à cette conviction de la liberté absolue d'opinion et de conscience, il n'y a plus de liberté dans nos sociétés. Et pour ma part, je le regretterai au plus haut point.
Ça, c'est pour le cas de l'essai. C'est pour le cas de l'expression d'une parole de conviction. J'aimerais qu'on aborde le cas de l'art, car vous en parlez évidemment. Et tiens, par exemple, toujours sur ce même sujet, le N-word, qu'est-ce que je fais de cet écrivain qui est sans doute l'un des plus grands écrivains contemporains, génie absolu, James Ellroy, qui emploie le N-word à peu près 777 fois en 700 pages, puisque ces personnages racontent le racisme dans une Los Angeles qui est totalement historique, celle des années 40 à 60, et fortement racialisée. Il est blanc, c'est l'un des plus grands écrivains contemporains. Le mot nègre, négro, est omniprésent dans un roman. Je rappelle qu'un roman n'est pas le reflet, normalement, des pensées de l'auteur.
Non, mais il est le reflet de la réalité. En tout cas, dans le livre de James Ellroy, c'est le cas. Et la réalité était celle-là. Alors, on ne peut pas critiquer ce livre à une intention critique. On ne peut pas critiquer une réalité passée en ne disant pas ce qu'elle était. Ça n'a plus de sens.
Aucun sens. Dans la série Aucun sens, cette année, vous avez sans doute vu un très bon livre, autre très bon livre, le voici, American Dirt, de Janine Cummins. Grand succès aux États-Unis, ça a pas mal marché en France. Il est sorti au mois de septembre dernier, aux éditions Philippe Ray. Alors c'est très simple, c'est l'histoire absolument passionnante d'une libraire mexicaine qui devient migrante. Janine Cummins n'est ni mexicaine, ni migrante. Elle a été absolument massacrée et accusée d'appropriation culturelle. Que vous évoque cette accusation d'appropriation culturelle, alors que ce livre, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, a permis de comprendre aussi ce que pouvaient être les pensées intimes, la réalité.
C'est le problème qu'évoquait David tout à l'heure. C'est un acquis de la culture et de la civilisation humaine que la capacité de s'intéresser à l'autre. Et quand on pousse cet intérêt jusqu'à y consacrer sa vie, de sincèrement s'engager à faire connaître et d'une certaine manière à compatir au sens le plus rigoureux, rude et intelligent du terme avec cette expérience existentielle différente, il faut le faire. Je le salue sans réserve et je suis absolument opposée à ces incriminations qui se trompent de cible.
Ce
n'est pas ça qui fera progresser non plus la lutte contre la ségrégation ou la discrimination.
Un dernier exemple avec un autre chef-d'œuvre de la littérature, mais évidemment qui peut faire grincer quelques dents, il continue d'ailleurs depuis 30 ans. American Psycho de Bret Easton Ellis. Alors là, c'est autre chose, c'est la transgression. L'histoire, je le rappelle, d'un serial killer, plus exactement d'un trader de Wall Street qui massacre les prostituées à la tronçonneuse la nuit. Avec un point philosophique important, puisqu'on parle de philo, c'est que dans sa confession, on ne sait jamais, jamais, s'il s'agit d'un rêve de Patrick Bateman ou de la réalité de Patrick Bateman.
Eh bien, tout le talent de l'écrivain vient de là, précisément, qu'on ne puisse pas faire la différence. Mais là, vous passez en revue un magnifique éventail de transgressions. Et moi, je me rappelle la phrase de Hitchens : si vous n'allez pas trop loin, vous n'irez jamais assez loin.
Ça pourrait être du David Van Reybrouck. Si vous n'allez pas trop loin, vous n'irez jamais assez loin, de Christopher Hitchens.
J'ai toujours du mal à parler de ce thème dans un contexte où il n'y a que quatre blancs sur un plateau en télévision. Je trouve ça, quand on parle des expériences africaines ou mexicaines à l'occasion, je trouve ça un peu délicat.
Pardonnez-moi, ça veut dire que vous auriez aimé, vous auriez souhaité qu'il y ait ce soir, par exemple,
une personne. Ce serait plus complet. Oui, bien sûr, parce qu'ici, on est en train de déterminer quel est le vocabulaire approprié que nous, on peut continuer à utiliser. Donc, je comprends en quelque sorte les sensibilités. En même temps, mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce qu'on voit d'une part des propos racistes qui sont absolument intenables, d'autre part une volonté d'en finir avec ces propos en réprimant un certain nombre de symboles, un certain nombre de représentations, un certain nombre de mots. Et je pense que le racisme et les discriminations systémiques ne vont pas s'arrêter avec la fin de l'utilisation de certains mots dans certains ouvrages d'art. Et je pense d'autant plus que je trouve triste que le moment où on commence à interdire une personne à écrire sur une autre personne ou à représenter, à s'imaginer la vie d'une autre personne, on perd quelque chose. Je comprends qu'à cette heure actuelle, dans cette génération, il y a un besoin de repli sur soi, étant donné les plaies historiques.
Ça, vous l'entendez?
Oui, je comprends. Mais je continue à croire, et c'est un peu démodé peut-être, Mais je continue à croire dans le rêve d'une humanité partagée, d'une fraternité, d'un universalisme. Et étant donné que le réchauffement climatique nous attend et va requérir l'union de toutes nos forces, j'ai un peu du mal à vivre cette époque où l'humanité se fractionne, se divise dans des petits îlots, avec des petites entités, avec des petits... des grandes plaies, qui entament en même temps un refus de se parler. Moi, je pense que tout le monde...
Et une volonté de censurer l'autre, c'est ce que vous dites.
Je pense que tout le monde a le droit de parler de tout le monde. Je crois que... Je crois qu'une femme péruvienne est tout à fait capable d'écrire un livre merveilleux, de faire un film merveilleux sur un transgenre tibétain. Voilà, je pense que c'est important.
Ce n'est pas une question très récente. En fait, si l'on se transpose il y a quelques décennies, un grand écrivain américain, William Styron, a été accusé d'avoir écrit deux livres sur... des personnages qui n'ont rien à voir avec lui. Le premier livre, c'est La Confession de Nat Turner, qui racontait l'histoire d'un esclave noir qui a été arrêté suite à une révolte. Il s'est même mis dans la peau de Nat Turner, ce qui était le crime absolu, puisqu'il le faisait parler à la première personne.
Scandale immense, c'était en 1969 aux États-Unis.
Voilà. Il a récidivé avec Le Choix de Sophie. Bon. Alors, de deux choses l'une...
Le Choix de Sophie, on le rappelle, Polony, oui. Il fait parler une femme déportée à qui un officier allemand, sur la rampe de tri à Auschwitz, donne le choix... de sauver un de ses deux enfants.
Exactement.
Et évidemment, William Styron n'est pas plus juif qu'il n'était noir.
Exactement. Donc, il a pris sur lui de mettre des mots sur une réalité, sur une souffrance, sur un esprit qui était face à un événement cataclysmique. Et je dirais que c'est son honneur et son rôle d'avoir fait cela. Il peut mal le faire. À ce moment-là, on le juge sur son talent...
Esthétique.
Esthétique. On le juge en termes artistiques. Mais tout le problème que vous soulevez est celui de l'art. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'art? Est-ce qu'on lui demande une forme d'universalité ou pas? Pendant très longtemps, on a demandé à l'art d'être un art universel.
Oui. Bon,
et de parler à tout le monde et en quelque sorte que tout le monde puisse se mettre dans la peau de ce dont il est question. Aujourd'hui, il y a comme une forme de ségrégation qui est troublante et qui est gênante. Alors, je comprends que l'on puisse, pour redresser le bâton, le tourner dans le sens complètement opposé pour ensuite, peut-être un jour, trouver une sorte d'équilibre. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui.
Ce qui nous amène au chapitre des solutions. Je passe, mais je renvoie le lecteur, chapitre formidable sur le blasphème, la différence entre l'injure et le blasphème, la différence que vous faites d'ailleurs entre le caricaturiste et l'humoriste, extrêmement fine. Mais le temps passe et on n'a pas la possibilité de passer en revue toutes les pages de ce livre. Je voudrais aller vers le chapitre des solutions, car vous écrivez, Monique Cantos-Perbert, peut-être faut-il repenser ou abandonner ce concept. Peut-être que la liberté d'expression ne correspond plus à l'époque. Il y a comme ça, en philosophie, des concepts qu'on peut oublier, dont on peut donner la date de mort. Tiens, liberté d'expression. Allez, 1859, John Stuart Mill, 2021.
Ce que je propose, c'est pas de supprimer la liberté d'expression, ni même d'y renoncer, mais plutôt d'essayer de la considérer autrement.
Comment ?
Eh bien, justement, première proposition, et là je suis un de mes maîtres, si je puis dire, qui est le philosophe libéral anglais John Stuart Mill, le milieu du 19e siècle, ne plus s'occuper de la question des fondements moral, pas moral, on s'occupe de la manière dont ça fonctionne en société, avec deux objectifs. Faire en sorte que le débat soit le plus ouvert possible, que le maximum d'opinions puissent circuler, afin qu'on puisse s'enrichir mutuellement en rencontrant la contradiction, l'adversité, mais en même temps être impitoyable sur les propos qui sont destinés à disqualifier les autres et à les priver de parole. Donc essayer, au fond, de négocier dans un rapport de force continue ces deux exigences. Alors quels sont les atouts pour cela? Il y a d'abord la justice, en particulier les lois qui régissent la liberté de la presse en France, c'est-à-dire
elles
les
sont
lois
toujours adaptées
de 1881, qui ont été constamment revues, bien sûr. Maintenant, c'est un corpus de lois qui s'est enrichi en 1937, en 1972, et avec les lois sur le négationnisme et sur les discriminations de toutes sortes, mais tout de même des lois qui, d'une certaine manière, essaient constamment de respecter l'équilibre entre la volonté de garantir la liberté d'expression la plus grande, mais également la volonté d'être efficace contre les propos les plus nocifs. Simplement, la justice ne suffit pas, et c'est d'une certaine manière un des apports de ce livre d'expliquer pourquoi. D'abord parce que la justice, inévitablement, est quand même parfois influencée par les mouvements d'opinion. On ne peut pas penser que la justice soit complètement, complètement à l'écart de toute espèce d'influence sociale de ce type. De plus, le problème que nous avons aujourd'hui avec la liberté d'expression, ce n'est plus tellement le pouvoir d'État, comme ce fut le cas jusqu'au XIXe siècle, mais ce sont les pressions de la société, et en particulier les pressions des groupes les plus activistes qui essaient d'imposer leur manière de voir. Donc pour résister à cela, la justice est évidemment un recours indispensable, mais à côté de cela, il y a un véritable engagement, et là je parle en tant que libéral qui croit en l'activisme social, un véritable engagement d'abord de régulation.
On va dire que vous êtes dans le militantisme. Attention, je vais chercher une communauté libérale.
Comment éviter cela lorsqu'on touche à un sujet pareil?
Alors,
un véritable, d'abord, beaucoup d'opinions aujourd'hui s'expriment dans des espaces qui sont des espaces privés, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui sont régis par des puissances privées, pas par des puissances étatiques. Il y a un accord absolument général sur le fait qu'on n'a pas encore défini le modèle de régulation idéal des réseaux sociaux, sur lesquels la plupart de ces propos de paroles libérées, de propos racistes, etc., circulent. Donc je propose un certain nombre d'orientations restituer sur les réseaux sociaux, non pas une opinion dominante, mais un véritable débat. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de véritable débat. Dans la mesure où la viralité des opinions les plus spectaculaires, les plus violentes, les plus farfelues est telle qu'elle se trouve dotée d'une visibilité maximale qui, d'une certaine façon, empêche, d'une certaine façon, le dynamisme du débat. Or, quand on est engagé dans le débat public, si vous voulez, on garde la conviction que pour finir, il y a toujours une opinion délirante finira toujours par être réfutée. Sur les réseaux sociaux, malheureusement, tel que ça fonctionne, ce n'est plus vraiment le cas. Donc c'est un élément essentiel de la solution. Et l'autre élément, c'est le fait de produire constamment des contre-discours, d'imaginer toutes sortes de moyens pour désamorcer les propos nocifs. Car la question n'est pas tant qu'ils ne soient pas prononcés, on ne pourra jamais empêcher un raciste ou un négationniste d'exprimer son opinion, mais faire en sorte que cette opinion n'ait aucune portée, aucune audience. Et je propose à la fin de mon livre un certain nombre de moyens qui permettent de désamorcer, par tous les effets de la distanciation, de l'humour, de l'art, de désamorcer l'effet des opinions les plus nocives.
La distanciation, l'humour et l'art. On va peut-être terminer avec Voltaire, qui disait peu ou prou que je ne suis pas forcément de votre avis, mais que je me battrais pour que vous ayez le droit de l'exprimer. Chacun monte au ciel comme il l'entend, disait-il également. Sauver la liberté d'expression aux éditions Albin Michel, c'est à partir de demain dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire toutes les librairies. Et je vous emmène d'ailleurs, tiens, maintenant, dans une librairie qu'à mon avis vous connaissez bien, Monique Cantos-Perber et Paul Audy. Vous qui êtes flâneur à Paris, David Van Reybrouck, vous avez forcément été traîné un jour vos guêtres sur le boulevard Montparnasse, chez Chan. Chan, c'est une librairie mythique créée en 1929 à Paris, donc à Montparnasse, dans ce quartier. Et c'est là que Yannick Poirier cultive, vous allez le voir avec beaucoup d'enthousiasme, la liberté de penser de ses habitués. Portrait d'un libraire très engagé, et ça fait du bien. C'est Inès de la Motte-Saint-Pierre qui a été le rencontrer.
Le rôle du libraire aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de rester dans une ville complètement morte et éteinte, une lumière, une petite étincelle. Donc là-dessus, on ne lâchera pas. On vend des choses qui sont de la dynamite, au fond. Parce que lorsque vous vendez un livre, on peut faire une révolution avec un livre. N'importe qui, lisant un livre, peut être profondément modifié. Lire, c'est une boîte à outils, au fond. Je suis dans un atelier et je rêve d'une grande communauté d'ateliers de lecteurs et d'artisans de la lecture que nous sommes tous. Le livre poétique, c'est Louons maintenant les grands hommes, de James Adji et de Walker Evans. Adji et Evans sont allés à la rencontre des paysans américains du sud des États-Unis. Ce qui est merveilleux dans ce livre de Adji, c'est la finesse, la délicatesse, la poésie de cet homme et la profonde humanité qui lui permet d'être au plus proche de ces gens-là. Quand vous le lisez, c'est un des plus beaux textes poétiques en américain pour moi au XXe siècle. Il faut lire Ode à un rossignol de Keats. Keats, c'est la capacité de parler d'un brin d'herbe, de parler d'un oiseau, de parler d'une lumière, de parler de la beauté du monde, de parler de la vibration du monde et communiquer avec cette vibration du monde, c'est merveilleux. Le livre noir, il n'est pas noir, il a des noirs. Et c'est pas un livre, c'est l'œuvre de Modiano. Je n'ai jamais, avec aucun auteur, connu cette sensation-là de trouble et d'ensorcellement. Le livre qui parle le mieux de la beauté du monde, ce serait le livre de Jean-Loup Trassard, Dormance. Il s'agit du récit d'un seul lieu sur plusieurs millénaires. Au début, c'est un abri sous roche. Aujourd'hui, c'est la ferme en Mayenne qu'habite Jean-Loup Trassard. Et parler de la beauté du monde, c'est peut-être accepter, à travers ce livre, que la beauté existe sans même que l'homme soit là pour la regarder. Le livre jubilatoire pour moi, c'est Paul Veyne, l'Empire gréco-romain. Nous, on a bêtement appris, malheureusement, il y a un empire grec, il y a un empire romain. Pas du tout. Tout est dans tout. Il faut lire Paul Veyne pour comprendre ça et pour comprendre surtout que ce qu'on appelle aujourd'hui globalisation et ce qu'on pense être absolument inédit a déjà existé dans l'histoire.
La révolution par les livres. Et puis samedi prochain, le 24 avril, ce sera justement la fête de la librairie indépendante. Et à cette occasion, vous pouvez y aller dans toutes vos librairies, pousser la porte de l'une des 500 librairies indépendantes qui participent à cette opération et vous verrez offrir ce livre consacré aux 40 ans de la loi sur le prix unique du livre. Ça n'existe qu'en France. Un livre, je vous le rappelle, c'est le même prix partout. Voilà. Paul Audy. Alors, en parlant de liberté d'expression, évidemment, on se pose la question de la compassion, de droit que l'on peut avoir encore de compatir pour une communauté à laquelle on n'appartient pas, par exemple. Et c'est une autre caractéristique de notre époque, d'ailleurs. Elle méritait d'être scrutée, me semble-t-il, par un philosophe. La compassion. L'empire de la compassion, écrivez-vous. C'est le titre de ce livre qui paraît chez Pocket. Alors, c'est en poche la version reconstruite, augmentée, actualisée d'un ouvrage paru il y a 10 ans chez Encre Marine, très bon éditeur de philosophie, parce que la pandémie, c'est vrai, a changé bien des choses. Peut-être que l'on compatit plus facilement, davantage même. Mais qu'est-ce que c'est la compassion, au juste? À quelle morale est-ce que ça obéit? Dans quelle contradiction la compassion vous plonge-t-elle? Et puis, que dit-elle, la compassion, de votre rapport à vous, à la souffrance, à l'orgueil, à l'autre? Eh bien, ce sont quelques-unes de ces questions qu'aborde Paul Audy dans ce livre. D'emblée, pourquoi est-ce qu'un philosophe, Paul Audy, s'intéresse à cette question de la compassion, qui est une émotion, a priori, pas une pensée? Croit-on, avant de vous lire?
Bon, d'abord, un philosophe s'en occupe parce que, naturellement, rien de ce qui est humain devrait lui être étranger. Donc, dans la compassion, il y a quelque chose qui sollicite l'humanité en nous. D'ailleurs, c'est un phénomène qui, chez les Grecs anciens, était un phénomène très circonscrit. Et au fil du temps, historiquement, il s'est étendu, il a pris des dimensions qui sont celles de l'humanité entière. C'est un des traits qui nous unit, le fait que nous ayons affaire à la souffrance. Mmh. Nous partageons tous ce rapport à la souffrance. Aucun être humain peut se dire n'avoir jamais souffert. Et précisément, quand on est face à la souffrance de l'autre, on reconnaît quelque chose en lui qui nous appartient en propre.
Aucun être humain ne peut dire n'avoir jamais souffert, mais tout être humain compatit-il de la même façon, avec la même intensité, peut-être même avec la même régularité, et dénué de tout intérêt, sans espoir de récompense.
Exactement. Alors là, on touche à des problèmes très complexes liés en fait à l'universalisation de la compassion. Pour les Grecs, la compassion ne pouvait s'exercer qu'auprès de gens qui étaient dans un milieu proche de soi. Mmh. Parce que justement, on avait des choses en commun avec eux. Dès que ce cercle s'élargissait, on ne pouvait plus ressentir la compassion, précisément parce que l'autre était trop autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
On a le sentiment que ça s'est renversé, ça. Alors, c'est précisément parce que l'autre ne me ressemble pas que je peux, en compatissant, essayer de le découvrir, de le comprendre.
Oui et non. Parce que, en fait, ce qui est spécifique à la compassion, et qui est une des raisons pour lesquelles ce sentiment, qui est le partage de la douleur d'autrui, a été souvent critiqué, c'est que nous n'avons pas accès à l'altérité de l'autre, nous avons accès au même dans l'autre, à une forme
Alors,
de similitude avec
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà. Il y a quelque chose que j'ai et que l'autre a. Et c'est sur la base de cette similitude que la compassion existe.
Sur ma ressemblance ? En fait, je parle de moi quand je compatis, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Non, mais il se trouve que nous avons, que nous sommes posés, vous et moi, sur une même terre, une même nappe, si vous voulez, celle de notre vie. Vous-même, vous êtes vivant, je suis vivant, et il n'y a pas de vie qui ne comporte pas la dimension de la souffrance. Donc, à ce titre-là...
C'est très parlant, hein, cette image de la nappe.
C'est magnifique, je pense à la nappe phréatique, en fait.
Oui, et c'est précisément ça qui est en jeu avec la compassion. Ce que nous découvrons, finalement, dans l'autre, c'est précisément ce que nous partageons, ce qu'il y a de commun entre lui et moi. Et c'est une expérience extrêmement forte.
Mais est-ce que je peux fonder une société sur la compassion sans que ça devienne une société compassionnelle, une société où l'émotion prendrait le pas ?
Alors,
ou qui ne serait qu'émotion ?
On ne peut pas. On ne peut pas. Je vous réponds très, très clairement. C'est insuffisant pour faire société. Mais c'est fondamental aussi pour le faire. Les deux.
Donc on est dans la même logique que celle qu'évoquait Monique
Kantos-Perber
pour la
logique.
Liberté d'expression. Il va falloir trouver aujourd'hui un équilibre.
C'est une logique d'usage. C'est une logique d'usage et de dosage même, je dirais. Et toute la difficulté est de savoir ce qu'on en a fait de cette compassion. Aujourd'hui, on a le sentiment que la compassion est devenue en quelque sorte le mot d'ordre du « surmoi contemporain ».
C'est-à-dire ?
Compatis. Il faut que tu compatisses.
Ça veut dire qu'il y a une injonction à compatir.
Oui, il y a une injonction à la compassion. Et si l'on ne compatit pas, on apparaît immédiatement comme monstrueux, en quelque sorte comme n'appartenant pas au genre humain.
Et ce n'est pas vrai ?
Alors, c'est vrai.
Parce que si je vous ai bien suivi, celui qui ne compatit pas, vous le disiez, perd
c'est
une
vrai,
part d'humanité.
Le problème, écoutez, je vais vous donner. Enfin, dans ce livre, j'ai consacré de très longues pages sur la critique nietzschéenne de la compassion. Nietzsche est certainement le philosophe occidental le plus critique vis-à-vis de la compassion. On ne peut pas finalement écrire un livre.
Soyez dur.
Soyez dur.
Soyez dur. Soyez écrit-il dur. Dans un chapitre qu'il intitule Les compatissants dans Ainsi parlait Zarathoustra.
Voilà. Alors, quand on...
Il n'est pas le seul, dites-moi, parce que vous retracez la longue histoire des philosophes qui détestaient la compassion, et on y trouve les stoïciens, tiens, les antiques. On y trouve aussi les philosophes chrétiens, Kierkegaard en tête, qui détestent la compassion et qui s'en méfient énormément. Que reprochent-ils tous à cette idée de la compassion ?
Alors, ça dépend. Il y a des critiques très diverses de la compassion. On ne peut pas les unifier en une seule. Mais pour parler des stoïciens, par exemple, leur but, c'est d'accéder à la sagesse. Et cette sagesse implique de ne pas souffrir. Le problème de la compassion, c'est que quand on partage la souffrance d'un autre, on souffre aussi pour lui, avec lui. Et c'est tout le problème de la compassion. C'est qu'elle vole au secours de l'autre pour le soulager, ou pour essayer de le tirer du mal dans lequel il est, mais pour autant, cela implique de souffrir.
Est-ce qu'il faut voler au secours de l'autre ? Je vous pose cette question parce que dans le livre de David Van Reybrouck, il y a un passage que je trouve très émouvant, où vous évoquez le deuil, la perte d'amis très proches.
Oui.
Vous étiez là, 5 d'entre eux sont morts.
Oui.
Vous racontez que les preuves, les témoignages de compassion que l'on vous adresse ensuite sont inaudibles pour vous.
Oui.
Que le pire, écrivez-vous à un moment, c'est quand on veut nous aider.
Oui, c'est ça. C'est curieux. Et le soutien le plus important vient de ceux qui ne veulent pas te soutenir. C'est curieux. Un aide qui veut trop aider est parfois condescendant. Et ça, j'ai vraiment bien appris dans votre texte.
Mais parfois... la compassion, pour vous, c'est de la condescendance ou c'est un mauvais usage de la condescendance qui...
C'est peut-être du mauvais usage de la compassion. J'ai tendance à faire la distinction avec Mathieu Ricard, qui fait la distinction entre la compassion et l'empathie. Son livre est apparu entre la première édition et la nouvelle édition de votre ouvrage. Mais il montre très bien, il n'est pas important que le compatisant souffre aussi. À quoi bon agrandir la souffrance dans le monde ? Il y en a déjà assez. Mais on peut être avec l'autre et reconnaître ce qu'il vit à une certaine distance, sereine, sanitaire même. Et c'est peut-être plus salutaire qu'une présence qui dit « Mais moi, je sens ce que tu, je sens ce que tu ressens. » Il y a une brutalité.
Le grand paradoxe de cette compassion qui vole au secours de l'autre, c'est qu'elle fait violence, en fait, à l'autre.
Voilà.
Elle fait violence, pourquoi ? Parce que, d'abord, elle réduit automatiquement l'autre à sa souffrance. Ce qui est insupportable pour quiconque souffre. Parce que toute personne qui souffre sait que la souffrance elle-même, pas lui, mais la souffrance elle-même, cherche à se sortir de la souffrance. C'est le propre de la souffrance que d'aspirer à sa cessation. Et lorsque l'autre jette un regard compatissant, il risque de réduire l'autre précisément à cette souffrance dont il ne veut pas entendre parler. En même temps, l'aide peut être bénéfique. On ne peut pas la récuser. Donc, toutes
les... Mais alors, sous quelle forme ? Par exemple, David Van Reybrouck donne un exemple que je trouve très beau. Vous dites, ce qui vous a le plus aidé, c'est un mot, une carte postale très simple sur laquelle un ami qui vous sait dans la peine a juste écrit « tendresse ».
Ben oui, c'est une forme d'aide. C'est une forme d'aide.
Il ne dit pas « je suis là », il ne dit pas « qu'est-ce que tu as ?» Il ne dit pas « dis-moi, raconte-moi », il dit juste « tendresse ».
Il le dit parce qu'il envoie la carte.
Oui,
il le dit, voilà. Il le dit parce qu'il envoie la carte et ça suffit. C'est toutes ces catégories qui entrent en ligne de compte. La pudeur, la délicatesse, le tact, la finesse que l'on peut avoir vis-à-vis de ce qui déjà réduit l'autre à quelque chose dont il ne veut pas.
C'est ça aussi qui est le témoignage de mon humanité, apprendre la pudeur, le tact, la finesse, ne pas réduire l'autre à ce qu'il ne souhaite pas être.
C'est incontestablement les grandes qualités de la civilisation. Être civilisé, c'est précisément savoir ce que c'est que le tact, de la délicatesse, et surtout le respect de la pudeur.
Monique Cantos-Perber, vous avez dit tout à l'heure, en parlant de la liberté d'expression, que tout était lié à la parole, que la parole peut faire mal. Là, en l'occurrence, la compassion, elle passe véritablement par la parole. Paul Odine montre très bien dans son livre. La compassion doit être dite. Elle n'est pas simplement une pensée pieuse.
La parole fait mal, mais c'est aussi ce qui fait le plus grand bien dans certaines circonstances et avec certains mots. Si la compassion est si importante, comme Paul Odine vient de le dire, c'est que, précisément, elle investit le domaine de la parole et de la présence. Ce qui nous rapproche en tant qu'être humain, ce n'est pas simplement la rationalité, le fait d'avoir des préoccupations communes, c'est le fait d'être capable de se sentir proche les uns des autres. Or, la compassion, c'est ça. C'est l'évidence de la proximité humaine. Mais je la verrais parfois nécessairement distanciés. Il ne s'agit pas nécessairement de pleurer ensemble, mais il s'agit de faire comprendre que nous appartenons au fond à une communauté de destin, qu'il y a des scénarios humains, des circonstances humaines particulièrement tragiques qui existent chez chacun de nous. La compassion, c'est cette évidence que la douleur que vous ressentez entre en résonance dans une autre subjectivité, elle entre en résonance avec quelque chose de profondément universel. Je pensais en vous écoutant, Paul, à cet extraordinaire passage de l'Odyssée où Ulysse, lors de ses déboires, de ses naufrages, ayant perdu tout espoir, arrive chez les Phéaciens. On le reçoit à la cour et là, on lui propose d'écouter un aède qui se met à chanter les malheurs d'un héros perdu en mer, et Ulysse entend ses propres malheurs qui sont déjà devenus une signification universelle. Et en entendant ça, Ulysse se met à pleurer. C'est la première fois que les larmes, non seulement sur son propre sort, mais sur le sort de ce qu'est l'humanité perdue, à la dérive, qui cherche un but, c'est à ce moment-là que ces larmes se mettent à couler. Et d'une certaine façon, c'est une sorte d'extraordinaire expérience de compassion à l'égard de soi, alors, à l'égard des autres.
Là, vous touchez un point, Monique Cantos-Perber, qui est peut-être aussi le point central du livre de Paul Audy, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire que tout à coup, le héros est vulnérable. Il est d'ailleurs reconnu à l'occasion de cette scène-là pour qui il est. La vulnérabilité, Paul Audy, vous nous dites, c'est ce qui finalement peut est-ce que ça peut être le fondement d'une morale, par exemple? C'est Schopenhauer qui disait que la compassion était le point d'entrée du plus grand mystère de l'éthique. Mais la vulnérabilité que la compassion crée, est-elle le point d'entrée d'une morale aujourd'hui, pour notre temps ?
Alors vous voyez, lorsque vous êtes aux prises avec la souffrance d'une personne que vous ne connaissez pas forcément, mais d'emblée, vous vous sentez attiré vers lui parce que vous savez qu'il y a quelque chose de commun. Ce n'est certainement pas sa souffrance qui est commune, puisqu'il est le seul à l'éprouver comme il l'éprouve. Mmh. Vous ne pourrez jamais éprouver sa souffrance comme lui-même l'éprouve. Il n'est pas question de partager cela. En revanche, ce que vous partagez, c'est le fait qu'il souffre. C'est ça qui est différent, vous voyez ? Vous ne pourrez jamais avoir accès
à sa souffrance à lui,
à l'épaisseur, à la densité, à la complexité, aux raisons même de sa souffrance, à l'écho que cette souffrance a en lui. En revanche, ce à quoi vous avez tout de suite accès, c'est au fait même qu'il souffre. Et cela, vous y avez accès parce que vous-même...
Vous êtes vulnérable.
Vous êtes vulnérable.
Alors, je voudrais qu'on avance, parce que dans votre livre, il y a beaucoup de pistes que vous proposez, et vous convoquez, ça j'aime beaucoup, souvent, non pas les philosophes, mais les romanciers. Ah, que voulez-vous, Monique Cantos-Perber? Quand un philosophe va chercher du côté de chez Stefan Zweig, par exemple, alors là, la philosophie peut être lue par tout le monde. Elle doit même être lue par tout le monde. Allez, on va se faire plaisir. Prologue, extrait, c'est une citation un peu longue, mais je vais la lire. C'est le prologue de ce livre admirable, « La pitié dangereuse » de Stefan Zweig. « Il y a deux sortes de pitié, écrit Zweig, l'une molle et sentimentale, qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui, qui n'est pas du tout la compassion, mais un mouvement instinctif de défense de l'âme contre la souffrance étrangère. Et l'autre, la seule qui compte, la pitié non sentimentale, mais créatrice, qui sait ce qu'elle veut et est décidée à persévérer jusqu'à l'extrême limite des forces humaines. » Il y a une compassion créatrice ?
Oui, il y a une compassion créatrice qui est précisément celle, d'abord, qui vole au secours d'autrui, qui souffre, et qui, justement, déploie des moyens pour le tirer d'affaire. Ça, c'est certain. Et puis, il y a une pitié créatrice au sens où elle va découvrir quelque chose que l'on ignorait. Et c'est en ce sens-là qu'elle est accroissement de l'humanité en nous.
C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme un révélateur.
Révélateur, et même, je dirais, elle va ôter un voile sur ce qui est devant nous, mais qu'on ne voit pas toujours. Je reprends l'exemple que j'ai pris précédemment et je le rattache à un autre exemple littéraire pour le coup. C'est dans les Confessions de Rousseau. C'est un des plus beaux passages des Confessions de Rousseau où Rousseau veille Madame de Varans qui est malade. Et il explique comment il a veillé sur elle. Et au fond, à quoi il avait accès à ce moment-là? Tout ce qui était de l'ordre de ses traits spécifiques, son âge, son sexe, sa forme humaine, sa beauté, la place qu'elle occupait, tout ça a disparu au moment où il veillait sur elle. Il ne restait plus quoi? Il ne restait plus que ce qui ne tenait qu'à ce qui faisait son soi. Et son soi, précisément, c'était celui qui était le sien à lui aussi. Donc c'est cette communion très intime qui est en jeu et qui fait disparaître les différences. Cette disparition des différences, elle est créatrice. Elle est créatrice parce qu'elle donne accès à quelque chose que l'on ne voit jamais d'emblée. On voit tout ce qui nous tout ce qui nous sépare, si vous voulez. Mais dans ce phénomène très curieux, on a accès immédiatement, sans réfléchir, à ce qui ne nous sépare pas.
L'Empire de la Compassion de Paul Audiste, à lire en poche, chez Pocket, dans la très bonne collection Agora. Avant d'ouvrir votre livre, David Varembroek, qui m'a enchanté, je voudrais vous parler de lecture à voix haute. Je ne sais pas si vous avez ça, tiens, en Belgique, mais on a créé, nous, un grand concours de lecture à voix haute à destination des jeunes, de la 6e à la terminale. Et il se trouve que c'est la dernière ligne droite pour ce concours intitulé « Si on lisait à voix haute ». Alors ça y est, le jury a désigné les 10 candidats qui défendront leur chance lors de cette grande finale qui sera diffusée au mois de juin sur France 5. Rendez-vous compte, il y avait 140 000 jeunes inscrits cette année, malgré les difficultés. Bravo aux profs qui les ont inscrits, qui les ont entraînés. Et puis évidemment, à toutes celles et à tous ceux qui ont participé, vous retrouverez leur nom sur le site leuni.fr. Alors pour aider les candidats, les finalistes à se préparer au mieux, à lire à voix haute, on demande des conseils comme ça, des acteurs, des comédiens. Voici un ancien pensionnaire de la Comédie française. Vous l'avez vu récemment dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est le tuto lecture à voix haute de Samuel Labarthe. Regardez.
La plupart du temps, quand on veut lire, quand on veut expliquer quelque chose aux autres, on a tendance à aller trop vite. Donc d'abord, bien respirer et même se forcer presque à aller plus lentement que normal. On ne va pas incarner le livre comme on incarnerait un personnage au théâtre. On va le rendre, on va essayer de s'effacer derrière l'écriture ou la pensée, juste la rendre. Il faut le lire comme on le sent. Je pense que c'est la meilleure solution. Comme ça nous a parlé, ça va parler aux autres. Alors non, je ne pense pas. On peut effectivement peut-être apprendre une phrase ou un groupe de mots par cœur pour pouvoir, je sais pas, plus captiver. C'est parce que c'est une phrase qui nous parle beaucoup plus, qu'on tient à faire ressortir du lot. Donc on va l'apprendre peut-être par cœur pour avoir un effet particulier. Mais en règle générale, on lit. L'exercice consiste vraiment à faire un aller-retour entre son texte et le public. Alors, bon, je pense que si on commence à lire à voix haute, forcément, le silence va se faire et à un moment donné, il faut y aller. Donc, on prend sa respiration tranquillement et on commence le texte. Et la meilleure façon de commencer, c'est de s'y mettre.
Voilà, la meilleure façon de commencer, c'est de s'y mettre. Plonger, oser, allez-y. On s'est toujours en compagnie de Monique Cantos-Perber, Paul Audy et David Varembroek. Je rappelle donc que vous êtes historien, archéologue, mais aussi romancier, poète, auteur de théâtre. On vous doit même une constitution européenne en vers,
oui,
que vous avez co-écrite. Et puis, il y a eu Congo, ce livre qui est un choc de lecture. Congo, remarquable. 250 000 exemplaires vendus, traduits en 15 langues. Vous publiez chez Actes Sud ces odes qui sont absolument merveilleuses, traduites du néerlandais par Isabelle Rosselin. Alors, ce sont de très courts textes, 2-3 pages, avantageux, les courts textes. Vous pouvez les picorer comme ça. Tiens, prenez-en un chaque soir. Avant de vous endormir, vous allez voir, c'est formidable. Il y a des odes à la nuit, à la musique, à la danse, à la peinture, à la lecture. Bon, mais aussi au risque, à l'échec, à la déconnexion, à la beauté des corps, ou encore au buffet de gare et même aux ex. Ah, oui, les ex. David Bowie côtoie Leonard Cohen, on philosophe avec Jacques Brel, et ça, c'est formidable, mais aussi avec Patrick Modiano ou encore Sonny Labutanzi. Pour quelle raison, David Van Reybrouck, des odes très courtes plutôt que, comme Monique Cantos-Perber ou Paul Audy, de revigorantes essais de plusieurs centaines de pages.
C'est vrai, je me sens presque intimidé par le volume de leurs ouvrages. En même temps, mon livre Congo était bien volumineux aussi. Et là, je me suis régalé en écrivant des textes courts dans le seul but de partager des passions avec enthousiasme, avec ferveur, des choses qui m'avaient frappé, qui me nourrissent, qui me rend heureux. Et je me suis rendu compte en écrivant ce livre, en écrivant ce texte, c'est que ça augmente la gratitude. Nourrir sa gratitude, ça augmente son bien-être, c'est clair. Je ne sais pas si les gens doivent lire ces odes que moi j'ai écrites, mais si ça peut leur stimuler, les stimuler à en écrire eux-mêmes, c'est tant mieux.
Oui, alors ça, je vous assure que, je ne sais pas si ça donne envie d'écrire, mais ça donne une envie furieuse de vivre et de vivre mieux. Peut-être de vivre en prenant des risques, car j'ai remarqué qu'il y avait tout de même un point commun à beaucoup de ces odes. Oui. C'est un ras-le-bol de la société sécuritaire dans laquelle nous vivons, David Van Reybrouck.
C'est vrai que nous vivons un peu dans une société aseptisée, aujourd'hui encore plus, mais bon, il y a des impératifs médicaux qui sont indéniables. Mais même avant le confinement, on s'est déjà un peu confiné. Quand on voit le nombre des enfants qui jouent encore dehors, quand on voit le nombre... Moi, je suis un passionné de la montagne, l'alpinisme, l'escalade et tout ça. Les jeunes générations le pratiquent de moins en moins.
Ah ben non, on va vous dire, c'est dangereux.
Ah, c'est dangereux. Moi, j'ai fait la traversée des Pyrénées à pied. J'avais 40 ans le jour. Je me suis dit, je vais le faire maintenant, sinon je vais être trop vieux. J'étais le plus jeune dans la chaîne, dans toute la chaîne des Pyrénées, parce que les hommes et les femmes qui le faisaient avaient très souvent 60 ans, 70 ans. C'est à peu près la même chose que 70 en français.
Oui,
et donc, je trouvais ça remarquable. Et je dis, mais où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent plus le risque de se prendre un sac à dos? Heureusement, il y en a encore, mais ça se pratique beaucoup moins souvent. Et j'ai un peu peur d'une société qui se replie sur soi, derrière les écrans, en connexion permanente, en neurasthénie permanente aussi, en quelque sorte, parce que la joie d'être en ligne est une joie de quelques secondes. Ce n'est pas la même joie de parcourir la chaîne des Pyrénées. C'est une joie instantanée, mais on en ressort quand même un peu malheureux à la longue.
Vous racontez, dans une ode à la déconnexion, un exemple très, très concret. Un jour, vous partez... Alors, ce n'est pas les Pyrénées, je crois que c'est le Pays de Galles. Vous dites, ah, tiens, c'est très bien le Pays de Galles, je vais aller faire le Pays de Galles. Oui. Bon, ben voilà, donc Van Reybrouck prend son sac à dos, comme d'habitude, et il part au Pays de Galles. Très content, Van Reybrouck, parce qu'il a un portable. Ah, il a un nouveau portable, un smartphone. Donc il se dit, c'est formidable, je vais être plus léger, j'ai plus besoin d'emmener tant de livres, je vais avoir accès tout de suite aux bouquins que je voudrais lire, j'ai accès au monde entier, j'aurai même les journaux. Vous dites, au lieu d'être plus léger, je suis revenu plus lourd.
Je ferai plus jamais. Ça a été la plus grande bêtise de toute ma carrière de randonneur, de partir avec un portable 4G. Ah non, c'est affreux. Le Pays de Galles, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été. Oui, mon corps y a été. Ma pensée, mon âme, absent. J'étais en contact avec des gens tout le temps. Dans ma tente, je bivouaquais quelque part dans une forêt. Et dans ma tente, j'étais en train de faire le gros gaillard sur Facebook. Et donc là, maintenant, quand j'ai fait la traversée des Pyrénées par après, je suis arrivé à Hendaye. J'ai sorti ma carte puce de mon GSM. Je l'ai mis dans une enveloppe. Je l'ai renvoyé à Bruxelles. J'ai acheté une carte puce française juste pour ma mère et quelques amis. Et ouais, c'était tout.
Qu'est-ce que ça nous dit, David Van Reybrouck, cette société dans laquelle nous ne sommes plus capables d'empêcher un invité que nous n'avons pas invité d'entrer chez nous, en l'occurrence Internet?
Nous ne sommes plus capables d'être sur place, je trouve. On est toujours partout. Être connecté tout le temps, moi je ne le suis plus. Là, depuis ce voyage au Pays de Galles, j'ai d'Internet quand il y a un Wi-Fi. Mais là, je me suis déplacé ce matin à Bruxelles pour venir ici à Paris. Je n'ai pas été en connexion depuis mon départ.
Ça vous manque, sincèrement?
Non, du tout. Du tout. Tous les livres que j'ai écrits, je les ai écrits dans un bureau à Bruxelles, l'autre côté de Bruxelles d'où moi j'habite, où, à ma grande bonheur, il n'y a pas d'Internet. Je fais des livres extrêmement documentés sur le Congo et récemment sur l'Indonésie, sans avoir accès à l'Internet. Oui, le soir, il y a une vingtaine de choses que je dois vérifier, et je fais ça dans un quart d'heure, et je perds un quart d'heure. Mais non, je ne perds pas, je gagne beaucoup de temps. Mais si j'étais resté à la maison où il y a l'Internet, j'aurais passé toute ma matinée en surfant la toile.
Ce que vous écrivez, David Van Reybroek, c'est que cette connexion permanente nuit à la créativité de chacun, pas seulement des écrivains, de chacun.
À la santé mentale, c'est clair. C'est prouvé.
Si Steve Jobs avait passé son temps sur son iPhone, il ne l'aurait jamais inventé. Quoi.
Ah, je pense. Non, je pense que c'est important. Parce qu'il y a une alignation vis-à-vis de son propre corps même. On vit avec ses doigts, on vit avec ses yeux, avec son cerveau, mais il y a une espèce d'oubli du corps. Et je trouve ça dommage. Il faut vivre avec son corps. Nous sommes des êtres physiques aussi. Et je trouve que l'hyperconnectivité nous fait perdre vue sur notre propre physique.
Parmi les odes, cette ode à l'échec. Ah, formidable, ode à l'échec. Pourquoi sommes-nous tenus de réussir, demandez-vous? Là, il y a une injonction très très forte dans notre société. Il faut être le premier, dans les premiers. On vous donne quelque chose, un diplôme. Faites-en bon usage surtout. Ça vous insupporte complètement, cette logique de la réussite à tout craint.
Les chiffres annuels montrent que la Flandre est la région européenne avec le chiffre PISA, qui a le cote le plus élevé par rapport aux connaissances mathématiques de toute la jeunesse européenne. Donc les Flamands sont des mathématiciens extraordinaires. C'est magnifique. En même temps, la Flandre a le taux de suicide le plus élevé, ou parmi les plus élevés de toute l'Europe aussi. Et je pense qu'il y a peut-être un rapport entre cette obligation de réussir et l'interdiction d'échouer, l'interdiction de faire des erreurs, de se casser la figure. Et je pense que c'est extrêmement important de garder la liberté. Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, il faut faire de son mieux. C'est vrai. Mais faire un échec n'est
pas... faire de son mieux, vous le rappelez, ça n'est pas forcément réussir.
Exactement. Oui. Un échec peut être... Jacques Brel le disait très très bien. Un échec, c'est toujours preuve de liberté. On a tendance à oublier.
La vraie liberté, c'est d'avoir le droit de se tromper. Hegel, Nietzsche, non, Jacques Brel.
Tout à fait, c'est merveilleux. Un autre flamand, francophone, mais quand même.
Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas seulement que l'injonction à la réussite qui vous agace, il y a le confort également. Vous dites, on va faire rentrer la pompe à bière, le home cinéma et la machine à espresso chez soi, du coup on ne va plus dehors. Enfin, vous direz qu'aujourd'hui on ne peut plus aller dans les cafés, ni au cinéma. Il est plus noble de revenir d'une expédition ratée dans l'Himalaya, écrivez-vous, que de regarder assis chez soi un documentaire sur l'Himalaya.
Ah oui, c'est évident. C'est évident. Mieux entreprendre quelque chose et faire quelques échecs que de rester dans le confort de son home cinéma en regardant Netflix ou en regardant quelques autres plateformes de streaming en se disant, voilà, j'ai vu le monde. J'aime bien cette approche d'être un piétonnier, en quelque sorte, de marcher, de respirer par les talons, comme disait si bien Lao Tse. J'adore cette phrase, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on le disait aussi de Rimbaud, l'homme aux semelles
devant. C'est beau. Mais comment faites-vous, David Van Reybroek, pour convertir ce qu'on appellera le goût du risque, ou alors la crainte de l'échec, en joie? Parce que ce qui me frappe, c'est que dans vos odes, c'est pas le goût du risque. Non. C'est pas la crainte d'échouer. C'est la joie de l'audace, la joie du risque.
C'est la joie d'avancer et peut-être la joie de la curiosité. Dans les débats sociétals, je pense qu'ils sont très souvent gérés par la crainte des propos intenables, la crainte de dire quelque chose qui ne va pas, la crainte d'être censuré.
L'autocensure, donc.
Et donc, voilà, on en vient là. À force de craindre le critique de l'autre, on se tait. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Dans un travail parallèle, moi je préconise, je suis un grand défenseur de la démocratie participative et délibérative. Au lieu qu'on ait une
société... Pour le dire clairement, vous êtes contre les élections.
J'ai écrit un livre qui s'appelle « Contre les élections » parce que je défends la démocratie. Et une démocratie, c'est un contexte où les citoyens se parlent, où les gens deviennent citoyens, c'est-à-dire ils se parlent, ils s'écoutent, ils s'échangent les arguments. Et les tendances qu'on voit maintenant, et Monique les décrit de façon absolument merveilleuse, c'est que toute pensée qu'on n'a pas tout compris ou qui nous gêne est interdite de s'exprimer. Alors que nous vivons dans une société où nous sommes dans les tranchées. La démocratie participative, c'est un risque. Parce qu'il sort les gens de leur tranchée. On les met ensemble. La Convention citoyenne pour le climat que le président Macron a instaurée ici a pris 150 Français tirés au sort pour parler d'un défi majeur, le réchauffement climatique. Il y avait des gens qui se sont retrouvés autour d'une table qui avaient des pensées extrêmement différentes. Il y avait des négationnistes du climat qui se sont retrouvés à table avec des gens, des écologistes. Mais ils se sont parlé. Est-ce qu'ils sont mis d'accord sur tout ? Non. Mais ils sont arrêtés de se traiter en tant qu'ennemis. Et donc, je pense, la démocratie, l'innovation démocratique, c'est un risque. Mais c'est un risque qu'il faut prendre parce qu'une démocratie qui se tait et qui se retranche dans les tranchées, c'est une démocratie qui est vouée à la mort.
Vous parlez beaucoup des risques, et alors parmi les choses qui aujourd'hui semblent risquées, dont on nous dit qu'elles sont dangereuses, mais qui ont enchanté votre jeunesse rebelle, David Van Reybrouck, et parfois, il faut bien le dire aussi la nôtre, il y a l'autostop. Qui n'a jamais pratiqué un jour cet autostop qui consiste à se rendre d'un point A à un point B en montant à bord d'un véhicule piloté par un inconnu, qui peut être, si on vous suit, dans des états d'ébriété parfois fort avancés. L'autostop, écrivez-vous, est la meilleure formation de citoyenneté que j'ai reçue. Alors, ouais. Évidemment, il y a le côté gag de l'autostop, mais vous en faites un argument politique. En quoi est-ce une leçon de citoyenneté, l'autostop ?
Parce qu'on rencontre des gens qu'on rencontre normalement pas. Et on découvre leur humanité, on découvre leur vie, on les pose des questions. Tout ce que je fais maintenant en écrivain, je travaille extrêmement avec des interviews au Congo, en Indonésie.
Vous recueillez les témoignages.
Je recueille les témoignages. Oui. Et je trouve que c'est une... Je continue ma vie d'autostoppeur, en fait. C'est vraiment ça. Je continue parce que je pose des questions à des inconnus. Et des gens qui peut-être me font peur au début ou que je trouve peu intéressants, ou même bêtes, ou odieux, je découvre la logique de leur vie. Je découvre ce qui les motive. Et si je récolte les témoignages, ce n'est pas juste d'une frange particulière de la société. C'est tout le Congo, c'est la Belgique, c'est la Hollande, c'est l'Indonésie, c'est les Japonais. Et je trouve que ça nourrit tellement. Je trouve que chaque témoignage est une remise en question de mes propres pensées. C'est un peu comme la philosophie, en fait, en quelque sorte. C'est la philosophie
appliquée.
Appliquée ou en plein air, en quelque sorte, avec un petit carton et un feutre.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce philosophe en plein air, Paul Audy ?
À partir de cette ode à l'autostop, on peut peut-être définir un peu mieux ce livre merveilleux qu'est Ode. C'est en fait un livre sur la beauté de la rencontre, quel que soit l'objet de la rencontre. Mais il faut qu'il y ait rencontre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit en plus de la rencontre ? Une sorte d'épiphanie, quelque chose qui se révèle et qui est de l'ordre du pur événement, mais un événement pour soi. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous transforme. Il y a quelque chose qui marque une césure entre l'avant et l'après. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans le livre, c'est que ces suites de rencontres qui sont singulières et qui, au fond, pourraient n'importe qu'à David, en fait, il les partage avec son lecteur et chacun s'y retrouve.
Alors non seulement s'y retrouve, mais on a envie de les vivre.
Mais absolument,
on a envie de faire l'autostop après absolument, vous avoir lu. J'ai presque envie de rappeler les ex, parce que vous commencez par une ode aux ex.
Oui, c'est ça.
Comment ça, une ode aux ex ? Vous écrivez, les ex ont stratifié ma vie, vos ex.
Ben oui, j'ai commencé avec la fin, parce que chaque fin est un nouveau début. Et je suis convaincu d'une chose, les relations ne s'arrêtent pas. Elle se transforme. Et donc, peut-être les rapports avec les ex sont les rapports les plus durables d'une vie. Ça ne s'arrête jamais, en quelque sorte. Et je suis fier, en quelque sorte, de ces amitiés qui sont nées des ruptures. J'ai la chance d'avoir quelques amitiés très, très, très fortes. Et je les, je les vis à bras ouverts. Ce sont des gens que j'aime toujours, mais autrement.
Il faudra peut-être qu'un jour un philosophe, Polodi, hein, se penche sur la philosophie des ex. Voilà, entre l'amour, l'amitié, il y a la place que nous réservent les ex ou que nous réservons à nos ex. Au point d'ailleurs que David Van Reybrouck a eu quand même une formule formidable. Vous tentez de séduire une femme en lui disant « Et si nous commencions une relation, je serais un ex formidable. »
Il ça a marché.
Non.
Oui. Et j'ai tenu promesse aussi. Non, c'est vrai. C'est fou. C'est un livre... Moi, je pense que les autres livres que j'ai faits sont parfois des livres durs. Je parle du colonialisme, du suicide, de la fatigue démocratique. Dans ce livre, c'est un livre intime. C'est un livre avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui est curieux, et je pense que je reviens à Paul, vient de dire, il y a un lecteur brugeois qui m'a dit, c'est un père qui avait perdu son fils, qui s'était suicidé. Et ce n'est pas un livre qui veut réconforter. Ce n'est pas un livre qui veut compatir, en quelque sorte. Et ce papa m'a dit, c'est le premier texte depuis 3 ans que mon fils est parti. C'est la première fois que j'ai réappris le goût, l'appétit de la vie. Et j'ai trouvé ça un compliment incroyable. Et je dis, mais ça montre à quel point la compassion qui parle trop, qui veut trop aider, est parfois inférieure à la compassion qui écoute, qui partage, qui montre encore l'enthousiasme. Pour moi, c'était vraiment un moment très, très fort. De toutes les réactions des lecteurs que j'ai eues, c'est sans doute la plus belle.
Oui. Je la partage tout à fait. Mais ce qui m'a extrêmement touchée dans votre livre, c'est que c'est un livre d'émerveillement, presque païen dans son inspiration. C'est-à-dire cette capacité de regarder la nature, de regarder la vie, le monde autour de soi, et de s'étonner, mais de s'étonner presque de manière métaphysique. À cause de cette lumière, à cause de cette sensation, eh bien, brusquement, c'est différent de tout ce que je pensais. Et de donner un sens. Je pensais à la fameuse phrase de Rousseau que vous citez, Paul dit, la longueur de la vie, ce n'est pas vivre le plus, c'est vivre en sentant ce qu'est la vie. Vous donnez un apprentissage, une méthode pour sentir ce que sont les éléments de la vie. Et j'étais aussi très frappée par la rudesse, parfois, c'est sans complaisance. Vous ne répétez pas, il n'y a aucune condescendance. C'est une sorte d'apprentissage vigoureux. On est en quelque sorte rappelé à la vie. Et les cicatrices, le travail sur les cicatrices, cet extraordinaire éloge des cicatrices qui sont là à la racine de la force de chacun. Quand vous parliez de vulnérabilité, oui, mais ce sont ces cicatrices qui font notre force, avec toutes les marques que porte cette force. Elle n'est pas idéale. Ou ce que disait Paul dit tout à l'heure sur la compassion rude, cette très belle phrase de Nietzsche, aidez votre ami dans la douleur, mais aidez-le en le couchant sur un lit dur. Ne pleurez pas avec lui, ne répétez pas ce qu'il raconte. Apprenez-lui quelque chose de plus de dur sur sa souffrance. C'est sans doute le message que voulait vous transmettre ce père de famille. Je suis très frappée par cela, par le thème général de l'ode, me semble-t-il, c'est au sens étymologique d'ailleurs, la capacité de vraiment rencontrer l'incommensurable, même dans le familier, même dans le plus quotidien.
Même dans ces choses qu'on ne voit plus, que vous voyez, ce que vous appelez la beauté du monde, c'est parfois un petit geste, c'est un détail, à force d'être dans les grandes théories, on ne voit plus toutes ces petites choses.
Je pense qu'il y a beaucoup de poésie dans ce livre. Il y a longtemps que j'ai écrit des vrais poèmes, mais je trouve que ces petites odes sont parfois des poèmes en prose, en quelque sorte. Et il y a un vitalisme. On pense souvent que le vitalisme, c'est une attitude de ceux qui n'ont pas vécu, ou que ceux qui n'ont pas souffert. Et je pense que c'est le contraire. Le vitalisme est le résultat de... C'est la déprime pour les avancées, en quelque sorte.
Cette ardeur, cet enthousiasme dont parlait Monique Cantos-Perber, cet émerveillement païen, parce que c'est exactement ça. Moi, ça vient d'où? Ça vient de ces failles, de votre vulnérabilité, de vos deuils?
Oui, si je me rappelle, adolescent, la mélancolie le remportait à ma vitalité. Alors que moi, maintenant,
qu'est-ce qui permet cela, je pense David Van Reybrouck, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que les forces sombres qui nous poussent vers le bas, tout à coup, se métamorphosent en un élan vital?
Je pense que mon vitalisme est mariné dans une mélancolie, en quelque sorte. Et la mélancolie est toujours là, je ne la nie pas. Elle fait partie de moi, mais il y a une espèce de gratitude, le contentement d'avoir une vie. Quelle chance. quelle chance d'être ici quelques années, de faire des rencontres extraordinaires, de voir des œuvres d'art ou de lire des œuvres d'art splendides, de voir le courage, de voir la fraternité, le courage d'un homme ou d'une femme politique. On critique souvent nos politiques, c'est vrai, et parfois je vois le courage. Je travaille beaucoup avec des politiques et j'admire ceux et celles qui veulent avancer. Le courage d'une Greta Thunberg, je trouve ça formidable, elle m'émeut aux larmes. Le courage de ceux qui luttent contre le réchauffement climatique avec ardeur, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qui le font quand même, qui n'ont pas le talent de cynisme, je trouve ça. Le cynisme est quand même une attitude assez facile, je trouve. Le vitalisme est plus difficile.
Ce sera le mot de la fin. Contre le cynisme, pour la vitalité, pour la beauté, les odes de David Van Reybrouck. C'est aux éditions Actes Sud et c'est traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin. Absolument admirable et on peut picorer un peu comme un livre de caractère. Merci infiniment David Van Reybrouck, Paul Audy, Monique Cantos-Perber. Merci à vous d'avoir suivi cette grande librairie. Je vous rappelle que vous pouvez repartir avec tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les fameux réseaux sociaux de la grande librairie. Après, vous aurez le droit à la déconnexion, vous en faites pas, vous répondez à la question, vous repartez avec les livres. C'est pas mal ça, non ? Et puis vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, tous les jours, sur les antennes de France Télé, la petite librairie. Bonne soirée, belle lecture, à mercredi prochain. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.